bienvenue au Voyeur de vue, le meilleur podcast de cinéma au Québec. Car oui, il y a des gens, il y a d'autres gens qui font des podcasts de cinéma au Québec. Il y a des gens qui font du cinéma qui font des podcasts de cinéma au Québec.
C'est vrai.
Mais est-ce que ces gens-là produisent deux épisodes dans la même semaine?
Certainement pas. Ils produisent même pas deux films dans la même semaine.
Non. Qui c'est qui est là, day in, day out? Qui c'est qui est Mr. No Weeks Off? C'est les Voyeurs de vue.
Cela est vrai.
Les Voyeurs de vue, c'est moi-même, Yannick Belzil.
Et moi, Alex Rose. J'ai monté l'épisode hier et oui. J'ai pas dit mon nom au début. Fait que si vous êtes extrêmement perdu, là, sachez que l'autre épisode que vous avez entendu avec sur Chicago, c'était aussi moi. Là, c'est pas quelqu'un de nouveau.
Non, non, c'était pas un imitateur ou quelqu'un comme ça. Là. C'était bel et bien toi.
C'était pas Marc Beaupré.
On fait deux épisodes cette semaine parce que on est real about that shit. Mais aussi parce qu'il y a eu la première du film, en avant-première à Fantasia, le nouveau Suicide Squad, qui est écrit et réalisé par James Gunn. Alors vous comprendrez que c'est pas un épisode où on suit la formule habituelle des Voyeurs de vue.
Exact.
On fait un épisode spécial pour une nouvelle sortie. C'était le fun parce que c'est le premier film que je vais voir sous les crédits des Voyeurs de vue. Auparavant, tu sais, je m'accroche après ton manteau, après tes queues de manteau, comme on dit en anglais.
Voilà.
Mais là, j'y vais sous le nom des Voyeurs de vue et voilà, c'était vraiment le fun. Bref, c'est ça.
C'est le premier film que je vois depuis le début de la pandémie où est-ce que le cinéma est plein.
Mm.
Tu sais, ou plein là, à sa capacité, mettons. Parce que tu sais, je suis allé au cinéma plein de fois, mais souvent c'est des visionnements de presse, on n'est pas beaucoup. Puis les fois que je suis allé au cinéma, tu sais, des visionnements là, publics, tu sais, il y avait genre 6 personnes parce que le film que j'allais voir n'attirait pas les foules tant que ça. Donc il y avait ça aussi, tu sais, c'était un peu calme pour Fantasia, mettons.
Ouais.
Je pense que ça aurait été beaucoup plus énervé dans une autre année, là. Parce qu'il me semble que Guardians of the Galaxy aussi a joué à Fantasia dans une situation similaire, car James Gunn est un ami de Fantasia.
Mm-hmm.
Puis juste, j'ai l'impression que c'était plus wild, mais ça a peut-être pas tant à voir avec le film qu'avec le fait qu'on sait plus comment vivre à l'extérieur de notre maison.
S'il y a quelque chose que je vais dire au sujet de... Une des affaires que je vais dire au sujet de ce visionnement, ça me fait dire au début, gardez vos... N'utilisez pas vos cellulaires, il y a un garde. Et
oui.
Durant le visionnement, il y a quelqu'un qui, son téléphone a sonné et n'a pas fermé la sonnette aussi rapidement qu'il devrait être. Et moi, j'ai pu l'entrevoir comme on dirait qu'il checkait c'est qui parlait ou d'où le message venait.
Ouais.
Et j'ai vu le garde aller l'interpeller.
Effectivement.
Et ça, bien que ça m'a sorti du film, m'a rendu très heureux. Car j'ai comme, tu brises le contrat social, esti, maintenant tu payes pour. Il s'est fait expulser, mais le garde est comme resté comme devant lui, tout de même rapidement, tout de même longtemps.
Tu sais, je dirais que moi, ayant été, maintenant, ça fait plusieurs années que ça va faire encore comme si je me pense, bon, deux épisodes de film, mais quand je vais au TIFF, tu sais, puis je suis dans des visionnements de presse ou d'industrie, le téléphone part tout le temps. C'est vraiment dur de contrôler ça, genre. Mm-hmm. Fait que, tu sais, je me suis un peu fait une carapace, mais j'haïs ça quand je le vois, tu sais. C'est dur quand tu le vois.
Mm-hmm.
Je me souviens, une fois, j'étais allé voir un film, je sais pas c'était quoi, mais le kid en avant de moi, tu sais, dans le genre de stadium seating d'un multiplex, sortait son téléphone littéralement à toutes les 10 secondes pour juste allumer le home screen, le regarder puis le fermer.
Mm-hmm.
Puis tu sais, un film, ça dure 2 heures, mettons. Donc 120 minutes. Donc il y a 6 périodes de 10 secondes par minute. Donc bref, il a sorti son téléphone 400 fois.
Adorable. Donne le goût de le gonner.
Ouais, absolument.
M'a dit quelqu'un d'autre qui a gonné. James Gunn, le réalisateur et scénariste de la nouvelle de Suicide Squad de 2021.
Oui, The Suicide Squad.
The Suicide Squad, bien sûr, de la façon de l'appeler.
Je comprends la motivation de faire ça, mais c'est sûr que ça va quand même causer de la confusion pour le reste des temps. Là, genre.
Ouais, c'est ça. Dites le nom de l'année à côté, là, ça va juste être plus simple. Pour expliquer un peu ce qui s'est passé avec ce film-là, faut revenir un peu avec le Suicide Squad original qui est sorti en 2016-2017, si je ne m'abuse.
2016, je crois.
C'était un film de David Ayer qui adaptait le fameux concept de DC Comics, qui est un des grands concepts d'équipe de super-héros de DC, qui est Amanda de Waller, qui est une fonctionnaire militaire impitoyable du gouvernement, décide d'engager des super-vilains et de mettre un explosif dans leur tête et de les envoyer à faire des missions sales et tout croche, style film canon des années 80.
Ouais.
Pour en échange d'un pardon de leur sentence, et si ils sont malcommodes durant la mission ou n'obéissent pas aux ordres, ils peuvent se faire péter la tête.
Voilà.
Puis ça, dans les comics, c'est un concept qui est vraiment le fun pour plein de raisons, mais une des raisons qui est le fun, c'est que tu sais, il y en existe 1000 des super vilains dans les comics. Fait que de Suicide Squad, ça devient comme une place où tu peux donner de la richesse à des personnages que tu as vus se faire bastonner trois fois par
exact,
The Flash.
Qui était unidimensionnel, puis qui avait, mettons, une caractéristique, mettons. Puis...
Exactement. Puis aussi, ça te permet de aussi tuer plein de personnages, ça tente, parce que tu sais, des fois, c'est des bonhommes que personne n'aime, puis que tu peux t'en débarrasser. David Ayer a fait un film là, de ça, et dans le genre de bouillon trouble qu'étaient les films de DC, parce que là, tout le monde se demandait comment on peut faire ça. Man of Steel puis Batman vs Superman ne marchent pas comme on pensait. Ils ont sorti un trailer de Suicide Squad qui était comme semi-populaire. Ils en ont fait un deuxième avec beaucoup de needle drop qui était clairement inspiré de Guardians of the Galaxy, de la campagne de Guardians of the Galaxy, puis de ce que le film avait de l'air, qui les Guardians sont écrits puis réalisés aussi par James Gunn. Par la suite, dans un genre de mishmash, bâclage hollywoodien, les dirigeants de Warner avaient demandé de recharcuter le film pour qu'il ait de l'air plus du trailer style Guardians of the Galaxy. Le résultat étant le film qui est sorti en salle et qui, à part quelques performances, dont surtout Margot Robbie en Harley Quinn, a été assez comme pas aimé par personne,
ouais,
vraiment.
Personne n'aime ça. Puis moi, je dois dire que je ne l'ai pas revu là, depuis que j'ai vu la première fois. Venant après Batman v Superman Dawn of Justice, qui était tellement long et plate et fade et gris, je trouvais Suicide Squad au moins genre stupide de la façon que je m'attendais. Je n'ai pas été déçu par... Je n'ai pas trouvé ça nécessairement bon. Mais j'étais comme, écoute, ceci est pas mal moins décevant et comme laborieux. Même si c'est pas bon, puis c'est niaiseux, puis c'est vraiment, c'est du... c'est basic, là, tu sais. C'est du niveau de surface sur toute la ligne, les jokes, les needle drops, tout est l'affaire la plus évidente que tu peux rencontrer. Mais moi, je ne déteste pas Suicide Squad comme la majorité des gens. Ceci dit, je ne suis pas prêt à le défendre ni à le réécouter.
Mais... Ben, moi, j'ai revu des bouts sur le corps dans les dernières années, et je dirais que je trouve ça généralement plate. La seule affaire que que j'aimais le moindrement, c'est que ça montrait comme qu'il y ait un univers de plein de personnages qui existent at large, puis de mettre ces personnages-là dans un film, je trouve que je trouvais ça comme une bonne idée, même si j'ai trouvé ça pas si bon.
Ben, c'est aussi le film qui a le meilleur Joker de tous les films.
Ouais, ben Jared Leto, tu sais, quand Gillette est là, probablement tu sais que le acting va être pas ostentatoire du tout.
Non, c'est ça.
Puis tu le sais aussi que tu vas peut-être pas sortir du film comme t'es rentré. Quand Jared Leto, il se transforme lui, mais...
Il nous transforme tous.
Ouais, aussi. Mm-hmm. Tu sais, Nietzsche l'a dit, quand tu regardes dans le Joker regarde dans toi.
Voilà, c'est ça.
Fait que, tu sais, Jared Leto, c'est un peu la même affaire. Fait que, moi, c'est-tu quoi? Je vais te dire direct là, j'ai pas tout vu Suicide Squad originalement parce que quand Jared Leto dans l'écran, après 15 secondes, je regardais à terre. Parce que j'avais peur d'être transformé. Fait que je l'ai pas encore tout vu. Le clip de Rick Ross où il apparaît en Joker dedans, non plus, je l'ai pas tout vu. Parce que ça me fait peur.
Ouais, c'est parce très apeurant.
Parce que comme le dit le grand Scott Aukerman, l'idée qu'un homme est amusé par le crime me terrifie.
Mais donc, c'est ça, Suicide Squad n'a pas été un succès.
N'a pas été le succès escompté.
Voilà.
Tu sais que, surtout, t'imagines, tu sais, il disait, là, il y a un cameo de Batman dedans, il y a Harley Quinn dedans, qui est comme le gros personnage fort de DC.
C'est la première fois qu'on voit Harley Quinn, c'est dans Suicide
Squad? En live action, oui. C'est officiellement live action, oui.
Parce que j'avoue que j'ai un peu mêlé qu'est-ce qui se passe dans Suicide Squad, qu'est-ce qui se passe dans Birds of Prey, là. Mm-hmm. En regardant ça. Mais tu sais, en tout cas, la bonne chose que DC fait, c'est que, puis on en reviendra, là, mais c'est que les films sont pas nécessairement chronologiques ou canons l'un dans l'autre. T'sais, ils peuvent l'être, mais ils sont pas nécessairement.
Ils se préoccupent pas avec ça. Il y a un de mes writers préférés de comics, Kurt Busiek, qui fait l'excellent Astro City. Lui, il est bien à cheval sur la continuité, mais quand il se fait poser des questions sur « Hey, cette histoire-là est placée où dans la continuité? » Il est comme... Quand il écrit un comic en ce moment, il est comme « Ben, on va le savoir une fois que c'est fini.
Ouais. »
Une fois que l'histoire est finie, là, on le placera, mais pour l'instant, c'est l'histoire qui compte. Puis ça, je trouve que c'est une bonne approche à la continuité.
C'est ça. Fait qu'il y a peut-être une continuité, mais on n'a pas besoin de... T'as pas besoin d'avoir vu les autres films.
Il y avait comme un... Dans l'ancien temps, dans les années 60, il y avait comme des comics de Superman à chaque mois. La seule continuité que Superman avait avec, mettons... ses ennemis, c'était la première fois qu'il s'était battu contre, le premier affrontement. Puis ouais. Le reste, s'il s'est battu 50 fois, c'est juste la première bataille qui est importante. Ouais. Le reste, il en parle jamais. Puis, tu sais, justement, mettons, Suicide Squad, mettons, tu aimes Harley Quinn, la seule affaire vraiment que tu as besoin de savoir, c'est qu'elle était comme dans le premier Suicide Squad et elle a un ancien chum qu'elle n'aime pas.
Mm-hmm.
Le personnage le plus important et le plus épeurant de toute la fiction, le Joker.
Oui, voilà.
Bref, tout ça pour en venir au film qu'on a vu.
Ben attends, il y a eu une autre marde, parce que là,
oui, c'est vrai, c'est vrai.
James Gunn était aligné pour faire Guardians 3.
Mm-hmm.
Et quelqu'un a trouvé une joke de pédophile. C'est ça, c'était une joke de pédophilie qu'il avait faite sur Twitter comme en 2011.
Ouais.
Ils ont sorti ça et c'était-tu la gang de Zack Snyder? C'était qui avait fait ça?
Les gens qui ont ressorti de ces vieux tweets pour le peindre de goudron et de plume, c'était, je pense, le bon vieux Cernovich.
Ah oui!
Un qui semble être disparu de la map.
Ouais, ça fait longtemps que je n'ai pas entendu parler de lui.
Qui était comme... Juste un de ces weirdos de droite-là qui disait qu'il devenait surpuissant en ne se masturbant plus puis en mangeant des pilules de suppléments qui lui donnaient du gorilla brain. Bref, une mauvaise personne. Mais une mauvaise personne qui, avec son mouvement de masse, a tout de même réussi à se faire renvoyer James Gunn. Puis aussitôt que James Gunn a été renvoyé de Guardians 3 et de Disney, Warner Bros. A fait « yoink ».
Voilà.
Et ils ont apparemment offert... Comme, fais ce que tu veux. Mm-hmm. Fais comme n'importe quel personnage, ça t'en fallait. Puis lui a choisi Suicide Squad. Fait que là, ce qui est comme... Quand c'était sorti, c'était l'affaire qui était comme intéressante. C'est que là, ils ont essayé de singer son Guardians. Fait que là, l'auteur de Guardians of the Galaxy se retrouve à vouloir comme faire la nouvelle version de Suicide Squad qu'on a vue ce soir.
C'est ça, voilà. Puis finalement, il a été réengagé pour Guardians 3.
Fait que
finalement, tout ça a été pour rien, sauf que lui, il y a eu un gig entre les deux. Fait que c'est James Gunn qui a profité le plus de cette affaire-là, en fait.
Tant mieux pour lui. Tant mieux pour le gars qui semble être comme l'auteur le plus confortable dans cette machine-là.
Ouais, c'est vrai. Mais tu sais, parce que James Gunn vient, il faut qu'on parle de ça aussi, James Gunn vient d'une sorte de machine comme Marvel, il vient de Trauma.
Oui.
Trauma qui ne pourrait pas être, en termes d'échelle, plus différent que Marvel, qui est une compagnie fondée dans les années 70 par un dénommé Lloyd Kaufman, qui font des films de très mauvais goût, de très peu de budget.
Oui.
Leur film le plus connu, c'est The Toxic Avenger, qui est d'ailleurs en train de se faire un remake par Macon Blair. Mais qui ont toujours un peu fait des films... C'est vraiment des films fauchés. C'est super vulgaire, c'est de mauvais goût. C'est très trash, gory, tout ça. Puis, je crois que James Gunn, son premier film de trauma, c'est Romeo and Juliet, qui est aussi, je pense... Fait que moi, j'étais vraiment into trauma quand j'étais un jeune homme, mettons, quand je déménageais à Montréal. Puis je pense que Romeo and Juliet, c'est pas mal le meilleur des traumas. Mais tu sais, on s'entend que c'est le genre de film que, mettons, je ne revisite pas et je ne pense pas que je vais revisiter. Beaucoup de jokes de manger du vomi, du sida, des affaires dans les fesses, des têtes qui explosent, tout ça. Mais ce qui est vraiment admirable de Trauma, c'est que avant l'Internet, c'était un phénomène culte et autosuffisant. Tu sais, t'as l'univers de Trauma, t'as les personnages, t'as Lloyd Kaufman qui est un genre de Stan Lee, là, il fait un caméo dans tous les films de Trauma. Puis... Fait que tu sais, dans un sens, je comprends pourquoi James Gunn est à l'aise à l'intérieur de la machine de super-héros, parce qu'il était dans Trauma, qui est un peu ça, tu sais. Qui est un peu cette même affaire de cult of personality, que tu sais, quand il y a un trauma, tout le monde sait un peu à quoi s'attendre. Là, les gens ont des attentes, justement, de trauma. Puis... les gens reviennent, tu sais, fait que Sean Gunn, qui est le frère de James Gunn, qui est maintenant dans tous ses films, qu'on voit maintes reprises, ben on voit une fois sa vraie face dans ça.
Oui, dans le rôle de Julian Day, le Calendar Man, un méchant de Batman.
Bon, puis aussi, je pense que c'est lui qui fait le motion capture du King
du
Shark.
Du Weasel.
Ah non, du Weasel, excuse. Pas de, c'est Steve Agee qui fait King Shark. Mm-hmm. Mais lui jouait dans les films, tu sais, il y a comme... Cette idée maintenant qu'on associe vraiment au film de super-héros, à la base, je crois, a été construite, tu sais, est aussi... mettons, on la trouve dans Trauma, puis on la trouve dans les films de Kevin Smith aussi, tu sais. Fait que... Puis ça, c'est des affaires qui me parlaient beaucoup quand j'avais 18 ans, puis moins maintenant. Mais tu sais, je pense à ça, puis je suis comme, peut-être si j'avais 16, 17, 18 ans maintenant, je serais crissement down avec les films de super-héros plus que je le suis là. Mm. Ou certainement, en tout cas, une chose est sûre, je serais crissement down avec ce Suicide Squad-là qu'on a vu ce soir.
Oui. Mais une affaire aussi que je voudrais juste faire comme une mini-parenthèse, c'est que, tu sais, ce qu'on vient d'écrire pour Kevin Smith puis pour Trauma, je pense que ça arrive, je pense que c'est le cas en ce moment avec Marvel. C'est comme la copie, la version moderne de ce qui existait dans le temps, tu sais, comme du vieux studio system, du vieux système de studio de tout le monde travaille pour le producteur ou pour la personne de...
Merci bien, Yannick.
C'est vrai que vous entendez là, c'est une bière qui a débordé, c'est pas...
je viens pas d'uriner dans mon froc.
Oui, fait que tu sais, c'est vraiment comme tout le monde... Une genre de shop à film, puis que tout le monde travaille pour un expresso. Puis je trouve ça intéressant de cette façon-là. Mais bref, c'est juste une parenthèse de ça. Puis justement, c'est là qu'on dit comme... James Gunn aurait pu être un de ces gars-là, je m'imagine, dans les années 40-50 aussi, d'être là, de réécrire 50 scripts. Puis
absolument. Puis ça, je vais vous conseiller, là, ça vous intéresse moindrement, le concept des serials puis tout ça. J'en ai parlé il y a quelques semaines, mais Pure Cinema Podcast, le podcast du New Beverly, du cinéma dont Tarantino est le propriétaire, il y a quelques semaines, ils ont fait un épisode qui dure 4h10, un podcast de 4h10, sur les films de public domain, qui sont des films dans le domaine public qui n'ont pas de copyright, donc qui sont trouvables partout. Puis Tarantino, une chose que je ne savais pas, est extrêmement bolé de Serial, des films des années 30 et 40 qui... avant la TV, dans le fond, qui était comme des séries télé, tu sais, des films de 70 minutes avec toujours les mêmes personnages, ils en faisaient 3-4 par année, tout ça. Fait qu'ils sont essentiellement l'ancêtre de la télévision. Puis, justement, qui était fait un peu sur un... dans une usine à saucisses, là, comme on explique maintenant, tu sais, comme on vient juste de l'écrire. Fait que c'est ça, c'est intéressant, le Pure Cinema Podcast. Je ne saurais être capable d'en parler moi-même, mais si tu peux pas parler de quelque chose, écoute Tarantino en parler, puis... Ça dépend de quoi. Une sorte de film, mettons. Je dirais peut-être, écoute-le pas sur faire tes impôts là, ou des shit.
Ouais, ou rien peut-être, c'est ce qui a trait à la vraie vie. Mais ouais, quand c'est temps de parler au cinéma, de cinéma, là, c'est temps de l'écouter. Fait que tout ça, ma foi, un enrobage de contexte pour ce qu'on a vu ce soir, Suicide Squad 2021 de James Gunn. C'est, encore une fois, on a la même prémisse parce que justement, une affaire que les personnages de DC ont bien, qui ont une nature semi-folklorique, c'est que leur truc de base, et dans ce cas-ci, Suicide Squad, une batch de super-vilains doivent accomplir une mission crottée pour gagner leur liberté. C'est la même chose que le premier Suicide Squad. Ils doivent accomplir une mission. Ils découvrent que les raisons pourquoi ils ont été envoyés là-bas par Amanda Waller ne sont pas aussi nobles, entre guillemets, qu'ils pourraient l'être. Puis il y a plein de personnages colorés. Là-dedans, il y a des personnages qui reviennent, dont Amanda Waller de retour, Rick Flagg, joué par Joel Kinnaman, est de retour. Mm-hmm. On a Harley Quinn, jouée par Margot Robbie, qui est de retour. On a des nouveaux personnages comme...
Le Boomerang Man.
Ah oui, Captain Boomerang, joué par Jai Courtney. George Digger Harkness, qui, d'ailleurs, qui est vraiment plus australien cette fois-ci.
Oui, effectivement.
Ce qu'on apprécie. Beaucoup, on veut quand on...
C'est le seul, bon, tu sais, moi, Jai Courtney, je le trouve, là, mauvais, là, de chez mauvais, là. Toutes les fois qu'il est dans un film, il me donne le goût de me péter la tête des murs. Mais je le trouve quand même bon dans ça, puis il est bon dans l'autre Suicide Squad aussi, tu sais, il accomplit bien cette tâche, quand même pas très difficile, là, on
s'en... Quand il est supposé être un leading man, il est comme... très fade, mais quand... dans Suicide Squad, il est un crotté, puis ça, c'est bon... Puis, il joue un méchant dans Jack Reacher.
Ah oui.
Il joue justement comme, « Hey, j'ai l'air d'un lead, mais je vais te tuer dans un buisson. » Et ça marche très bien dans le premier Jack Reacher. Alors, t'as ces squadeux-là qui revient, puis il y a des nouveaux squadeux, comme Idris Elba dans le rôle de Bloodsport, qui est un homme qui a 1000 armes. Dans les comics, il pouvait juste faire se téléporter des guns, mais là, il a juste un suit.
Bloodsport, c'est pas un personnage, c'est un personnage du comic?
C'est un personnage du comic, oui.
OK, parce que dans l'autre Suicide Squad, il y a Deadshot.
Il y a Deadshot.
Qui est essentiellement le personnage très similaire, là, aux propriétés très similaires.
Oui, oui.
Fait que moi, je pensais que parce que Will Smith pouvait pas revenir, ils ont juste inventé un nouveau personnage qui ressemblait à ça.
Non.
Tu me dis qu'il vient du comic aussi.
Il vient d'un comic de Superman, justement. Okay. Quand il mentionne son origine, comme il a gonné Superman avec une balle de kryptonite.
Exact.
Ce qui vient de John Byrne des années 80, qu'il avait inventé. Fait que ouais, c'est ça. Sauf que là-dedans, à la place de téléporter des guns, il y a comme un suit qui est juste rempli de technologies qui assemblent ensemble pour faire les différents guns, qui est tout de même cool. On a aussi John Cena dans le rôle de Peacemaker, qui est l'homme qui aime tellement la paix qu'il va tuer pour l'accomplir.
Exact.
Qui est un personnage de Charlton Comics, qui est aussi l'inspiration pour le comédien dans Watchmen.
Ah,
fait que Jeffrey Dean Morgan... Le personnage qui jouait, puis c'est essentiellement ce personnage-là. Okay. Fait qu'il y a ça, on a...
King Shark.
On a King Shark, qui est joué par Sylvester Stallone, qui est aussi un grand personnage de DC Comics, qui a souvent été dans le comic de Suicide Squad, mais qui est juste souvent sorti comme... Ce personnage-là est funné. Est-ce que c'est le fun, les comics? Parce qu'il y a un gros homme requin.
En short de surf.
En short de surf qui apparaît. qui a vu le jour en live action pour la première fois dans la série de Flash. Tout le monde était heureux à la maison quand ils ont vu un gros gorille puis un gros requin se battre à TV.
Puis lui, il est à mi-chemin un peu entre Groot puis le lézard là, dans le premier Suicide Squad. Là, tu sais, qui est...
Killer Croc. Oui, c'est ça. Il est à mi-chemin entre ces genres de créatures-là, le fun, que tu peux faire plus une bubble avec. On a Ratcatcher 2, qui est joué par une actrice portugaise qui s'appelle...
Daniela Melchior.
Melchior, qui est une jeune dame qui contrôle les rats grâce à une invention de son père. On a aussi Peter Capaldi, que j'aime beaucoup, qui est bien sûr le 12e docteur. Et qui joue The Thinker, qui est un scientifique maléfique qui est derrière un plan que la squad doit découvrir.
David Dastmalchian, qui est le Polka Dot Man.
Oui, oui, oui.
David Dastmalchian, qu'on connaît, j'imagine, le plus pour son rôle dans Ant-Man. Là,
il est dans Ant-Man and the Wasp, il est aussi aussi joué dans The Flash.
Il est dans Dark Knight. Il est beaucoup dans les films de super-héros.
Oui, oui, lui. Ouais. Mais lui, il est comme... Tu sais, il a vraiment... une bonne face de character actor à jouer des tueurs puis jouer du monde troublé. Fait que ce qu'il fait en ce moment, il va continuer à le faire le reste de sa carrière puis il a l'air de bien aimer ça. Alors tant mieux pour lui. Et on a bref, on a tous ces personnages-là qui...
Savant, joué par Michael Rooker.
Michael Rooker, oui.
Qui est apparemment un hacker, quoi, qu'on n'en parle pas vraiment dans le film.
Non, il est juste un genre de Deadshot.
Nathan Fillion.
Qui joue The Detachable Kid. Mm-hmm. On a Blackguard, qui est joué par Pete Davidson. On a Flula Borg, qui joue Javelin, l'homme au javelot.
Oui.
Et il y a Mongal, qui est bien sûr la fille de Mongul, le tyran interstellaire de Warworld qui a souvent combattu Superman. Une autre création de John Byrne, si je ne m'abuse.
Pete Davidson.
Pete Davidson qui joue Blackguard, qui lui semble juste avoir une armure avec des guns.
Ouais.
Et bref, c'est ça. C'est un autre Suicide Squad. Ces gens-là vont en mission. Beaucoup meurent. D'autres reviennent. D'autres ils se font envoyer une mission dans le pays sud-américain, le Corto Maltese,
oui.
Que les nerds affûtés comme moi vont se rappeler que c'est bien sûr le pays où Vicky Vale a pris ses photos terribles qu'elle montre dans son portfolio dans Batman de 1989.
Mais il n'y a pas non plus aussi un comic book qui s'appelle Corto Maltese.
Il y a le personnage de Hugo Pratt, le Corto Maltese.
Oui, c'est ça. Corto Maltese is a series of adventure and fantasy comics named after the character Corto Maltese, an adventurous sailor.
Ouais, par Hugo
Pratt.
Was
created by the Italian comic book creator Hugo Pratt in 1967.
Puis c'est aussi justement le nom qu'ils ont mis dans, qu'ils ont utilisé une couple de fois dans l'univers de DC.
C'est qu'il aurait pu appeler ça Tintin, l'île de Tintin aussi. L'île de Spirou et Fantasio Islands.
Absolument. Il y avait beaucoup d'aventures dans le pays Amérique du Sud, dans Spirou aussi. Ça aurait pu arriver.
Ouais, les dictateurs, là, puis le monde avec des petits képis, c'était vraiment populaire. Pas juste Spirou qui avait un petit képi aussi.
Les BDS belges, j'aimais ça dessiner un képi. Là. Ouais, ils n'avaient un puis deux. fait que là, bref, j'ai expliqué en masse un peu c'est quoi l'intrigue de l'histoire. Qu'est-ce que t'as pensé, toi, Alex, de Suicide Squad?
Ben, première chose à noter que j'ai aimé du film, c'est que avant la dernière, mettons, demi-heure, le film n'est pas un film de super-héros à proprement parler. Mm-hmm. C'est un film d'action. T'sais, c'est un film de Men on a Mission comme The Dirty Dozen ou Inglourious Basterds ou quelque chose comme ça. Et donc, tu peux faire fi à un certain niveau des genres de clichés qu'il y a dans un film de super-héros, dont celle que j'ai mentionnée tantôt en sortant du film, allons chercher une bebelle.
Mm-hmm.
Il n'y a pas de bebelle importante dans Suicide Squad. Il n'y en avait pas dans le premier non plus, il me semble dans le premier, c'est un truc similaire là, qu'il doit faire.
Il faut qu'il aille chercher quelque chose au milieu d'une ville okay. Qui crée des méchants, mais tu sais, ouais.
Mais tu sais, ça fait. Puis il y a très peu de. Bon, tu sais. Je tire des lasers avec mes mains, j'ai un gros sou de robot, le méchant est énorme. Ça arrive éventuellement parce que, tu sais, c'est inévitable. Mais c'est vraiment long avant que ça arrive. Et ça, j'ai trouvé ça assez appréciable. Ça donne plus de temps de personnage. Ça donne plus de temps un peu pour tu sais, donner de la texture. Même si cette texture-là, tu sais, on va se le dire comme... Comme j'ai dit tantôt, tu sais, James Gunn, j'aimais vraiment ça, le genre de ce sens de l'humour cynique, wacky, violent, edgy de James Gunn. J'aimais beaucoup ça quand j'avais 14, 15, 16, 17, 18 ans, mettons. Mais maintenant, ça marche moins bien aussi en partie parce que ça a été super popularisé. Tu sais, mettons, le sens de l'humour, on entendait beaucoup parler de ah, tu sais, ça que c'est gory, puis c'est fou, puis c'est tellement. Edgy, le nouveau Suicide Squad, c'est pas plus ou moins edgy que Deadpool, mettons.
Non.
C'est plus drôle que Deadpool.
Oui.
Généralement parlant.
Regarde, on va vous surprendre, là. C'est bon, même si les personnages savent pas qu'ils sont dans un film.
Puis, tu sais, c'est aussi comme c'est beaucoup plus, je trouve, visuellement comme intéressant puis soigné que même les films de Guardians of the Galaxy. Tu sais, juste au niveau visuel, puis au niveau un peu de la construction des scènes, puis la construction des gags, tu sais. Guardians of the Galaxy est un peu des fois, well, that happened, puis il n'y a pas vraiment ça ici.
Alors, regarde, je sais pas, on a-tu déjà défini c'est quoi, well, that happened?
Je sais pas exactement. Tu sais, on en parle tout le temps, toi et moi, mais ouais, je sais pas si on a déjà parlé sur le micro.
Regarde, well, that happened, c'est. C'est des blaguettes. C'est comme des morceaux de blagues pour ajouter une genre d'épice drôle à des scènes d'action, des affaires comme ça.
Ben, c'est un tag. C'est taguer une affaire peut-être invraisemblable, mettons.
Ouais.
Ben, well, that happened spécifiquement, c'est ça. Là.
Ouais.
Mais tu sais, c'est juste. C'est une forme de tag qui vient un peu couper un peu l'intensité de ce qu'on vient de voir, dans le fond. Mm-hmm. Fait que, tu sais, comme une scène, mettons, où ce que quelqu'un déboule 700 escaliers, puis à la fin, quelqu'un fait « That's gotta hurt », tu sais, c'est tagué une joke que la joke était déjà évidente. Puis ça devient drôle parce que je pense que l'idée, c'est que t'es supposé apporter de l'attention, tu sais, puis dire, tu sais, mettre de l'emphase sur... Oh, un chien encore. Hein.
Oui.
Au parc, il y a des chiens.
Oui.
Mettre de l'emphase sur le fait que cette joke-là était pas tant drôle. Fait que c'est un peu une façon... C'est comme de l'anti-humour, dans un sens, mais de façon très peu confiante. T'sais, ça, c'est l'affaire avec du vrai anti-humour, tu sais, Eric Andre ou de faire la même. C'est que c'est comme... Ça a une confiance sans borne et sans calice, si tu comprennes ou pas. Mais « Well, that happened », c'est un peu lâche. C'est comme... Je veux être sûr que t'as compris que ce qui vient de se passer, c'était une blague, puis que
oui,
j'ai fait une blague.
C'est comme un petit soulignement funné à la fin. Moi, la première fois que j'ai rencontré... que j'ai isolé ça, c'est dans 30 Rock. Mais tu sais, 30 Rock est une mitraillette de jokes.
Mm-hmm.
Fait que faire un petit blagouillette à la fin... C'est correct parce qu'il y a 16 jokes dans la scène.
Mm-hmm.
Fait que c'est juste comme une autre affaire par-dessus. Tu vois aussi que c'est une affaire que il y a 15 ans, des comédiens vraiment drôles faisaient comme improviser ça à la fin d'une scène.
Exact.
Puis là, ça c'est devenu une affaire qui est utilisée puis qui est souvent comme crowbarré, collé, facile.
Mais c'est la béquille de Ryan Reynolds, mettons. Même.
Ouais, ouais. Comme c'est absolument, oui. C'est le sens de l'humour de Ryan Reynolds. Tu sais, un petit peu, mais pas tant que ça, de rock. Puis c'est devenu un genre de joke que tu peux plugger facilement, que tu peux faire une joke dans un trailer avec.
Mm-hmm.
Puis que. Qui avait dans les films. Qui c'est venu dans les films de super-héros de pop culture. Mais.
James Gunn, on a parlé de Austin Powers ici. Mm-hmm. Puis Austin Powers fait beaucoup ça.
Oui, oui.
Mais tu sais, Austin Powers, il est tellement. C'est quoi le mot que je cherche? C'est, il est tellement comme vaudeville,
mm-hmm,
que c'est pas vraiment... Tu sais, comme toute l'affaire est vaudeville. Fait que tu sais, comme ça fait partie... Dans ce temps-là, c'est pas comme un manque de confiance ou un manque de confiance en dans ton public. C'est vraiment... Ça fait partie de la joke. La joke est conne. Elle est taguée avec une affaire conne, tu sais. Mais c'est une affaire que ça fait longtemps que ça existe. C'est quand ça a commencé à être utilisé de façon naturelle, tu sais, comme si genre ça se passait dans le vraiment dans le tissu de la scène.
Ouais.
C'est là que ça commence à chier là, à être mauvais.
Puis James Gunn, il en a amené un sac puis une pelle dans Guardians of the Galaxy,
mm-hmm,
ce qui a été un énorme succès. Puis là, ça a commencé à métastaser dans les films de Marvel, encore plus dans Guardians of the Galaxy 2, énormément dans Thor Ragnarok. Que je sais que le pays, la planète adore Thor Ragnarok, mais moi, c'est la raison pourquoi je l'aime pas, c'est que c'est juste des jokes faciles de même.
Ouais, ouais.
Puis, il y a beaucoup de ça, justement, dans Suicide Squad.
Mm-hmm. Je te dirais qu'il y en a beaucoup, puis il y en a beaucoup qui fonctionnent pas, mais il y en a qui fonctionnent en partie parce que le niveau de Suicide Squad, de celui-là, est assez... edgy, slapstick, gory, tu sais, comme... Je pense que c'est correct de faire ce genre de joke-là quand t'as une surenchère de choses qui ne sont pas drôles d'habitude.
Ouais, t'sais. Ouais.
De faire exploser la tête en close-up, d'habitude, c'est considéré une chose pas drôle, ou ça l'a déjà été, mettons, c'est de moins en moins. Fait que je pense que c'est correct, tu sais. Ça se prend mieux, mettons. Mm. Mais il y a effectivement beaucoup de ça, puis c'est quelque chose qui, à travers le film qui est très long, comme tous les films maintenant, c'est éternel, c'est sans fin. Tu commences ta journée, puis tu es encore en train de le regarder quand tu vas te coucher. Genre. À travers le film, ça s'essouffle. Mais tu sais, au début, en tout cas, l'énergie, tout ça, de l'humour, c'est quand même bien. Mais à un moment donné, ça s'essouffle parce que c'est un peu toujours la même sorte de joke. Là,
ouais, c'est ça, tu sais. L'affaire, moi, j'ai tout de même comme... De la façon dont j'en ai parlé, j'ai pas l'air d'avoir aimé ça. Mais j'ai bien aimé ça, pareil. Mais on dirait que c'est ça. Je veux tout le temps comme bien gros aimer les affaires de James Gunn. Puis je les aime pour la plupart. Mais on dirait que j'aime j'adore le gâteau, mais je peux me passer du glaçage.
Ouais, ouais, ouais.
Puis c'est ça, ma comme ce que je trouve, ce qu'il fait dans Suicide Squad, c'est vraiment écœurant parce que, tu sais, c'est vraiment comme les comics que John Ostrander puis de Luke Mitchell ou...
John Ostrander est dedans, il est dans le film, d'ailleurs.
Oui, John Ostrander est le docteur qui injecte les bombes dans, mm-hmm. dans les forcenés. Puis, tu sais, ces comics-là sont comme... ils ont exactement ce genre de mission qu'on a vu dans le film, aller faire exploser quelque chose ailleurs, mais tu sais, ils sont colorés avec les moyens de couleurs des années 80 qui sont pas autant nice, fait qu'il y a beaucoup de jaune puis de couleurs LED, puis ça mm-hmm. reflète le genre de mission. Tu sais, c'est vraiment nice. C'est de l'action paramilitaire avec des super vilains dedans, puis tu sais, ils structurent... Le film est... même la dernière demi-heure, ça devient trop long, là, mais regarde, le film est vraiment bien structuré. Les personnages sont vraiment bons. Tu sais, je trouve surtout de la façon qu'il a décidé d'écrire Harley Quinn dans le film. Mm-hmm. Tu sais, elle a comme une couple de scènes showstopper, deux grosses scènes d'action, puis une grosse scène plus romantique avec sa propre intrigue qui a toutes les facettes du personnage, mm-hmm. a comme toute son histoire dedans, a toutes ses facettes, fait shiner Margot Robbie en tant qu'actrice, a des petit truc visuel le fun. C'est comme une petite capsule, une petite aventure de Harley Quinn mm-hmm. En tant que telle. Puis être capable de juste faire comme d'encapsuler ça de même, je suis comme ah, Chris, ça c'est bon. Ça c'est vraiment ouais, bon. Ouais. Tu sais, il y a un soin aussi de présenter tous les personnages. Il y a des affaires qui. Je trouve ça que c'est structuré. Il y a un soin dans toutes les affaires qui est le fun, mais. On dirait qu'il sait à un moment donné, bon, là, c'est le temps de mettre du glaçage sur mon gâteau. Puis son glaçage, c'est quoi les jokes? C'est mettre des moments avec des animaux. Quand le film pullule d'animaux,
ouais, ouais.
La seule pureté dans le monde de James Gunn, c'est la pureté animale, c'est l'innocence animale. Mettre des réactions cute d'animaux, des jokes, puncher 7 fois sa même joke,
ouais, ouais,
qui est de
ouais.
moins en moins drôle. Fait que, tu sais, c'est toutes ces affaires-là qui, tu sais, on a vu avec beaucoup de monde, qui fonctionnent avec tout le public. Fait que, tu sais, clairement, ça marche. Mais moi, je suis comme, un moment donné, je me croise les dos, les bras.
Ben, ouais, parce que c'est le problème fondamental d'un film qui se base sur le concept de « Wow, est-ce qu'ils ont vraiment fait ça? » Spoiler, mais pas spoiler. Je vois rien spoiler de spécifique, mais si vous voulez vraiment rien savoir sur le film, arrêtez d'écouter maintenant. On apprend assez tôt dans le film que tout le monde peut mourir, puis que c'est pas parce qu'un personnage est joué par quelqu'un de connu nécessairement qu'il va pas mourir. Une fois qu'on a compris ça, on voit tout ça venir. T'sais, on voit chaque moment choquant ou de comme « Oh shit, quoi? » Tu le vois venir parce que le film... Te susurre à l'oreille, déjà, ça va être quoi le B de la toune avant mm-hmm. qu'il la parte. Fait que tu vois la toune venir, puis à un moment donné, ben, tu fais juste anticiper le beat de drum. T'sais, tu t'anticipes qu'est-ce que le film fait, puis ça, c'est quelque chose qu'il y a, tu sais. Moi, je me souviens la première fois que je me suis senti comme ça, c'est en 2005, avec le film Feast. Tu sais ce que c'est, Feast?
Non.
C'est le deuxième film, je pense, qui a gagné Project Greenlight, qui était un show de télé-réalité à HBO, qui était piloté par nos boys Ben et Matt.
Ben et Matt. Grosse semaine pour Matt.
Puis c'était comme, tu sais, c'était un show de télé-réalité que tu faisais une compétition, puis à la fin, ton scénario, il te donnait 1 million pour faire le film. Le gars qui a gagné, soit la deuxième ou troisième année, je pense, il s'appelait John Gulager. Puis il a fait un film qui s'appelle Fixed, qui est un film de... qui est vraiment mon genre de shit, là, en fait. Là. C'est un film de... comme un peu prise de... En fait, c'est plein de gens dans un bar, dans un genre de saloon de désert, puis il y a des bébites dehors qui essaient de rentrer dedans. Puis comment le film est structuré, c'est quand un personnage est introduit, tu sais, il arrive à l'écran, puis là, c'est écrit genre « The hero »,« The badass »,« The asshole mm-hmm. ». Puis quand c'est « The hero », là, je vais spoiler un film que personne ne va regarder. Là. The Hero, c'est Henry Rollins. Là, c'est la deuxième fois en 2 semaines qu'on mentionne Henry Rollins. Henry Rollins arrive, il casse la fête, puis il dit une affaire genre « I'm here to chew ass and to kick ass and chew bubblegum and I'm all out of gum ». Là, freeze frame, the hero. Dès que ça défreeze, un monstre le pong par la fenêtre, vient le pong, le mange. Puis ça, c'est ce genre de shit-là qu'il y a dans toute Suicide Squad. T'sais, c'est exactement sur cette vibe de blague ou de twist-là que tout le film est construit.
Mm-hmm.
Fait que, tu sais, c'est le fun, ça. Genre, c'est correct, t'as le droit de faire ça. Sauf qu'à un moment donné, tu te rends compte que si tout se peut, l'affaire qui se peut le moins va se passer. Fait que ça devient tout aussi prévisible dans son imprévisibilité parce que, tu sais, c'est... Le film te le dit, il donne ce code-là tôt dans le film, il dit bon, expect the unexpected. Puis là, c'est juste ça. T'sais. Fait qu'à un moment donné, c'est ça, ça devient un peu lassant. Tout de même, j'ai quand même, comme je te dis, on chiale beaucoup, mais j'ai quand même eu passé un bon moment. T'sais. C'est pas. Certainement pas mauvais.
Mm-hmm.
Je trouve que quand même visuellement, c'est plus beau que beaucoup des films de super-héros. Là, ça, c'est une coche au-dessus des films de Marvel, certainement. Là,
ouais.
Juste au niveau de la direction photo, puis un peu les idées visuelles. Là.
Ben, c'est ça, il y a plus d'idées visuelles, puis il y a aussi le fait que, comme tout... en fait, c'est une affaire que j'ai vraiment remarqué, que même quand c'est des grosses images de synthèse, la caméra swing plus, tu sais, la prévisualisation qui a été faite pour les effets spéciaux de ce film-là est plus soignée que justement de ce qui sort de
Il y a des bons calls, mettons, juste de texture, tu sais, j'ai pensé, il y a une shot où ce que c'est un peu l'anarchie, là, tu vois, genre une shot du village, puis là, il y a quelque chose qui va se passer, puis dans le coin, il y a un chien. Je sais pas si tu te souviens de ce shot-là, il y a un chien blanc qui dort comme à côté d'une roulotte. Puis ce qu'on voit en premier, avant de voir n'importe quoi de CGI, c'est le chien se lever, regarder derrière lui, puis se sauver. Puis ça, c'est juste une texture. Tu n'as pas besoin de ça. Là. C'est zéro important dans ça. Puis probablement que c'est le chien de James Gunn ou un enfant de même, parce que c'est le seul vrai chien qu'on voit dans le film. Puis... Mais c'est ça, il y a un soin de texture... quand même que ces films-là n'ont pas d'habitude parce que je pense qu'ils sont sur un horaire extrêmement tête puis c'est comme il y a 1200 personnes qui font du CGI
partout dans le monde 10, pour
18 heures par jour pour que ça sorte la bonne journée pour que tu sais puis j'ai pas senti ça dans Suicide Squad même si tu sais il y a quand même quelque chose d'assez plaqué et de prévisible dans sa façon d'être imprévisible c'est quand même bien texturé, je trouve.
Ouais, fait que c'est ça, tu sais, comme, encore là, tu sais, la raison, je pense, pourquoi je critique beaucoup des affaires, c'est comme j'ai dit, tu sais, j'aime vraiment le gâteau, là. Mm-hmm. C'est juste le glaçage autour qui me...
Ça donne mal au cœur, éventuellement, t'as trop mangé de glaçage.
Exactement, c'est ça. Fait que, mais, tu sais, sinon, j'ai bien aimé ça, comme, tu sais, comme tout ce qu'il y a avec Harley Quinn, c'est vraiment nice. Joel Kinnaman est comme un leading man, comme pas nécessairement le fun traditionnel, mais il y a quelque chose d'un peu plus intriguant dans sa droiture morale.
Ouais, il est mieux utilisé dans celui-là que dans l'autre.
Viola Davis est vraiment désagréable, impitoyable,
ouais.
Comme le personnage qu'elle incarne dans les comics.
John Cena fait une bonne job comparé à F9 dont on a parlé il y a quelques semaines, dans lequel il était sans intérêt.
Ouais, il est vraiment... Sérieux, je pense qu'il est dans F9 parce que, bien sûr, dans les ennemis deviennent des amis, faire partie de la famille.
Bien,
on dirait qu'ils l'ont... Je pense qu'ils l'ont casté pour qu'il soit gentil éventuellement. Et c'est que là, ça va être plus écoutable parce que dans F9, c'est pas dans ses forces. Puis là-dedans, il est... Il se donne corps et âme.
Ben, c'est un personnage comique. Puis, comme on a parlé, il est vraiment meilleur à faire ça qu'un personnage... Tu sais, il n'est pas particulièrement convaincant. T'sais, même s'il est extrêmement musclé et taciturne et tout ça, il n'est pas particulièrement convaincant. C'est vraiment... Ça, c'est comme un bon exemple de, tu sais, comme... Tu peux t'entraîner toute ta vie, mais ta face, c'est ta face.
Ouais.
Puis, à un moment donné, tu sais... Même si tu représentes un genre d'idéal physique masculin, t'as quand même une weird face de jambon. Puis c'est ça qui arrive. Tu peux pas vraiment t'en sauver. Fait que, tu sais, les films qui utilisent Cena à son meilleur, c'est les films qui comprennent ça, dont ce film.
Oui, ouais, non, non, ça c'est vraiment bien. J'ai bien aimé Peter Capaldi, surtout quand on arrive à sa scène clé où ce qui crie à des gens que le gouvernement est corrompu et que l'autorité est corrompue.
On n'a jamais vu Peter Capaldi faire ça.
Non, non, Peter, sérieux, quand tu donnes l'occasion à Peter Capaldi de faire ça, c'est comme un gymnaste faire des roulades. Il est confortable, il est là, puis tu trouves ça beau, il fait bien ça.
Si vous voulez genre pure uncut Capaldi, c'est In the Loop. L'émission de... Armando. Le film de The Thick of It, c'est
In
ça?
Film de In the Thick of It. In the Loop, de Armando Iannucci. Ouais. Avant qu'il ait fait Veep, il a fait comme il a fait une série de ça à la BBC dont le personnage principal s'est avéré être un criminel sexuel. Alors, oui. tout le monde a comme mis In the Thick of It dans une écoutille, puis comme on n'en parle plus jamais. Mais son personnage qui joue Malcolm Tucker dans le film In the Loop, où ce qu'il fait du juronnage avec son gros accent écossais, un sport olympique, où les juges lui donnent tout 10.
Hey, ça c'est, mais on devrait, à un moment on va se rendre à In the Loop, je pense.
Ouais, ouais.
Il y a quelqu'un de... Ah ben, il y a James Gandolfini, on peut se rendre d'abord.
Ça peut se faire, ouais.
Assez facilement, je pense.
Ouais, ouais. Ou par M. Iannucci, ou son professeur Dr. Stalin, ou quelque chose
comme ça. C'est bon, ça, Dr. Stalin aussi. C'est bon. Armando Iannucci, il est bon, je l'aime.
Ouais, fait qu'on va se rendre là, mais bref, puis aussi, bien sûr, d'une version pour toute la famille, mais quand il était le docteur, il était Doctor Who, quand c'était le temps de crier à des dirigeants que la guerre, c'était pas bon, on va dire. Il y en a eu 14 qui y ont joué le docteur. Pas beaucoup qui l'ont fait aussi bien que lui. De crier l'horreur de la guerre puis que dire en même temps qu'il a commis des atrocités puis qu'il peut pas dormir la nuit, là, pour des enfants, là, il est bien bon, là. ça, ultimement, je le recommande. Si vous allez voir un film de super-héros... en fait, une affaire que j'aimerais ça... Clairement, là, Quand James Gunn se promène, il laisse une empreinte et dans ces gros films-là. J'imagine que ça va être le cas encore, bien que le succès du film, on est encore en règle de pandémie, fait que là, on ne sait pas à quel point le film va faire de l'argent, mais tu sais, avec HBO Max, tout ça, comment ça va arriver. Fait que là, qu'est-ce que tu... Mettons, on fait un jeu, qu'est-ce qu'on pense que ça risque d'influencer les futurs films de DC. Là, c'est qu'est-ce qui va être copié de Suicide Squad, tu penses, selon toi? Là? Penses-tu que là, il va y avoir encore plus de côté air puis d'action explosive?
C'est dur à dire, parce que là, j'ai l'impression que, vu qu'ils sont des hosties de jambon, ça va être... c'est sûr que ça va faire moins d'argent qu'un Marvel l'aurait fait hors pandémie. Puis ça, c'est en partie parce que c'est la pandémie encore, puis en partie parce que Chris, c'est côté air, tu sais, puis... Il y avait un enfant, j'ai vu un enfant sortant du film. Puis j'étais comme, j'amènerais pas, tu sais. Moi qui. J'ai pas d'enfant, là, mais tu sais, je suis assez ouvert là, à l'idée, tu sais, comme. Les enfants peuvent voir des affaires fucked up. J'en ai vu des affaires fucked up quand j'étais jeune, tu sais. Puis genre, avant, on voyait tout le temps des affaires fucked up, puis c'était pas la fin du monde. J'amènerais peut-être pas un enfant à voir Suicide Squad, tu sais. Fait que. Je pense qu'il va y avoir un certain backlash de ça, surtout de la droite conservatrice qui vont chier dans leur culotte.
Oui, faut dire que le film, tout comme le comic original, dit clairement, est vraiment comme à cheval sur l'impérialisme américain.
Ouais, ouais.
Quelque chose qui est absent du premier film parce qu'il envahit une ville américaine. Mais là, c'est full on.
Ouais, ouais, exact. Fait que, ça va être mal vu. Je sais pas. Je pense pas, honnêtement. Je ne vois pas là-dedans un succès interplanétaire grandiose. Cependant, c'est ce film-là qui a les meilleures reviews de films de super-héros depuis, genre... Nonobstant Joker, mettons. Puis même là, qui était assez... depuis Black Panther, je te dirais, là, en ce moment. Fait qu'il y ait un succès... financier ou pas, j'ai l'impression que ça va quand même changer un peu ce que les gens font. Je n'anticipe pas une grosse vague de films côté air de monde avec des têtes qui explosent. mais peut-être plus de trucs un peu stand-alone comme ça, tu sais, ou un peu qui font, sans être stand-alone ou sans être, tu sais, des what-if,
mm-hmm.
des choses qui font fi un peu de la continuité. Tu sais, déjà, Marvel, faut qu'il s'éloigne de ça parce qu'ils se rendent compte que, tu sais, maintenant, ils contrôlent tout le cinéma, mais les acteurs veulent pas rester, tu sais, faut recommencer. Puis, en regardant ça aujourd'hui, puis en parlant, tantôt, on parlait de Kevin Smith, puis Trauma, tu sais, des affaires qui se sont éventuellement estompées, que même les gens les plus die-hard du monde, à un moment donné, ont comme décidé, ceci m'intéresse de moins en moins, car trop expansif, trop de trop. Ça va arriver à Marvel aussi.
Mm.
Ça peut pas être, tu sais, là, le monde dit ça, Marvel, tout le cinéma, c'est juste rendu Marvel. Ça peut pas être Marvel pour toujours.
Mm.
Le monde va se tanner de ça comme ils se tannent. Tu sais, il n'y a plus de rock'n'roll qui joue à la radio. Fait que pourquoi ça serait Marvel pour le reste de l'univers? T'sais? C'est juste que j'ai l'impression que le changement va se faire un peu là. Là. Parce que là, Marvel, il y en a une petite gang là, qui s'en viennent. Ils ont tout un wave, là, whatever.
Il y a trois films. Il y a trois films et il y a... Là, il y a What If qui va sortir sur Disney+. Mm-hmm. Qui ça peut potentiellement rafraîchir ben des franchises ou ramener des acteurs selon ce que je pense que tu vois la vague Marvel, je pense qu'elle va continuer, mais je crois que la pandémie va avoir tout de même changé un peu quelque chose, que s'il y avait un autre film d'Avengers avec les Avengers originaux, mm-hmm. ça serait très huge.
Ouais.
Là, je pense qu'il y a comme un travail de comme dans une équipe sportive, il faut que tu construises avec les nouvelles recrues.
Mm-hmm.
Je crois que c'est ça un peu en ce moment qu'il y a avec les films de Marvel, mais en tout cas.
Ouais, donc bref, moi aussi, je dis, si ça vous intéresse moindrement, je le recommande. Tu sais, sans être à tout casser, sans être, mettons, même sans, je dirais, sans être un bon film... Tu sais, sans... Ouais, non, attends, c'est pas vrai ça. Mais tu sais, c'est pas comme... Ah, oh, wow, quelle révélation, quelle affaire, quel truc. C'est solide.
Mm-hmm.
Puis c'est bien en masse, tu sais, c'est bien correct. Tu sais, comme comparé à Black Widow, mettons,
il mm-hmm.
y a quand même un plaisir à prendre. Puis juste le fait... Ce que ça fait de différent, c'est quand même rafraîchissant. Même si éventuellement, le film nous gave de cette affaire rafraîchissante-là, puis on est écœuré, puis on veut plus... On est putain intéressé. Donc c'est ça. Ils ont fermé les lumières au parc.
Ouais, ouais, là, on est vraiment dans le noir. C'est temps qu'on y aille, c'est temps qu'on continue de boire et jaser au Pélican. Mais ça, j'ai bien aimé ça. Et mais ouais, tu sais, c'est. Il y a un véhicule avec des lumières au loin, ça veut dire qu'il faut qu'on.
Ouais, il est souvent là, le véhicule avec des lumières.
Moi, okay, c'est bon. Fait que ouais, moi j'ai bien aimé ça. Je trouve que, comme j'ai dit, tu sais. James Gunn sait y faire, c'est vraiment structuré, ça run vraiment au début, mais par la suite, ça s'essouffle. Mais si tu restes encore vraiment heureux et satisfait de ce spectacle-là, je pense que vous allez être satisfait comme auditoire, vous autres aussi.
Mm-hmm.
Puis, fait que je le recommande si vous avez le temps de le voir en salle, parce qu'on n'a pas HBO Max ici.
Voilà.
Puis là-dessus, on va terminer.
Oui.
Vous pouvez me suivre at Yannick Belzile sur Letterboxd, sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook.
Moi, je suis sur cultmontreal.com, également sur Twitter avec Alex Rose avec deux petites barres en dessous à la fin. Et What Does It Exist sur Instagram et Letterboxd.
On vous rappelle qu'on a sorti un épisode sur Chicago cette semaine,
oui,
avec Mathieu Bouillon, avec qui on a eu bien du plaisir, et que la semaine prochaine, notre concept nous amène vers Richard Gere, et on va parler du film Primal Fear, le drame légal.
De Gregory Hoblit. On a longuement parlé de Gregory Hoblit avant d'enregistrer.
Oui, le maestro derrière Fracture.
Ouais, voilà.
Avec Anthony Hopkins et Ryan Gosling. Mais en attendant, merci de nous avoir écoutés et on vous invite, bien sûr, à aller voir une vue.
Yeah. Les voyous.